Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour le chat. Comment ça va? Chers amis. Ça va encore faire de l'hélicoptère? Non. Non. Flight Simulator, c'est le week-end détente. On est lundi, on va faire une revue d'actu politique. C'est le retour de la prog. Pas le temps d'aller me faire un chocolat chaud, ça va pas ça. Si, t'inquiète, va te faire un chocolat chaud, on a le temps. Bonjour tout le monde. Ouais, la stache, t'as vu? La moustache. Quand Malo Sénat repassera sur son stream, c'est pas prévu. Tu es en avance pour Movember. Ouais, je suis un peu en avance. J'ai pris un peu d'avance. Je me suis fait la stache de Movember un peu avant. Movember, où les hommes qui le souhaitent sont invités à se laisser pousser la moustache. En sensibilisation sur le cancer de la prostate. Voilà. Je dis pas de conneries. Movember a commencé. Bah, ça commence le 1er novembre. Et donc ouais, je suis un peu en avance. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Merci encore pour ton super raid, vraiment très apprécié. Mais de rien, bravo à toi, j'espère que tes vols se sont bien passés. Très content de faire des raids sur des chaînes Flight Simulator. Si je peux soutenir les créateurs de contenu sur Flight Simulator, je suis toujours très heureux. Et nous on se laisse pousser les seins en octobre, oui voilà c'est ça. On est arrivé vivant. Vivant, c'est déjà pas mal. Oui, bah, très bien. Écoute, très très bien. Bonjour tout le monde, installez-vous confortablement. On va faire une revue d'actu politique. On va lire des articles de journaux et en discuter. Je souhaite avoir des poils sur le visage depuis l'adolescence, mais mon corps ne veut pas. Ah. Ça. On peut pas contrôler. D'ailleurs, il faut que je squatte un rasoir électrique. Mon père m'a dit qu'il en avait un pour moi. Et il peut me le filer la semaine prochaine, je crois. À mon dernier dépistage de prostate, le toubib m'a même pas envoyé de fleurs, pas de carte, rien. Pourtant, on est intime maintenant, un mufle, je vous dis. Est-ce qu'on suit l'émotion de censure? Non. Non, non. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, lundi, à partir de 15h, a débuté l'examen de deux motions de censure, déposées pour une part par les insoumis, les communistes et les écolos, et d'autre part par le Rassemblement national. Et elles sont en train d'être discutées à l'Assemblée nationale, mais on va pas les suivre. De toute façon, on connaît déjà l'issue. Et l'issue, c'est que les motions de censure ne seront pas adoptées. Pour quelle loi? Pour le budget de la sécurité sociale. On est en train d'examiner à l'Assemblée nationale les budgets, les lois budgétaires, le budget de l'État, le projet de loi de finances, et le budget de la sécurité sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et sur ces deux textes, le gouvernement a engagé l'article 49.3, a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet donc de faire passer un texte sans vote, avec les amendements retenus par le gouvernement s'il le souhaite, si et seulement si aucune motion de censure n'est adoptée. Et donc c'est là, ils sont en train de discuter de l'adoption d'éventuelles motions de censure, mais il y a peu de chances qu'elles soient adoptées. Dernière participation pour moi, une revue d'actu. Je viens de passer un entretien d'embauche et j'ai le poste. Bravo! Félicitations Ariane. GG, bah oui, tu t'en parlais dans le chat de ton entretien d'embauche hier. Bah GG, c'est cool ça. Je comprends pas pourquoi on n'appelle pas le 49-3 le 46 tout simplement. Je l'ai. On peut écouter en taffant. Vous pouvez écouter le débat sur les motions de censure si ça vous intéresse. C'est en direct sur le site internet de l'Assemblée. Mais on se doute de l'issue. On se doute de l'issue puisque la NUPES ne votera pas la motion de censure du Rassemblement national. Et le Rassemblement national votera la motion de censure de la NUPES. Mais de toutes les façons, les républicains vont s'abstenir. Donc il n'y aura pas la majorité absolue, donc il n'y aura pas de chute du gouvernement. Business as usual, la situation n'a pas changé depuis l'année dernière, donc on est toujours dans le même. On est toujours dans la même arithmétique à l'Assemblée nationale, pas de changement majeur, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des changements notables. La seule motion de censure qui a failli être adoptée, c'était à l'occasion de la réforme des retraites, où il y a une partie du groupe Les Républicains qui a voté une motion de censure transpartisane, déposée par Liotte. Ce qui a fait que la motion de censure n'a pas été adoptée, parce qu'il leur manquait des voix, mais il ne leur manquait que 8. La démocratie, you know. Bah oui, exactement, la démocratie, la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement s'ils le souhaitent. Mais pour ça, il faut qu'il soit une majorité. On vote à la majorité. Et Jean, tu m'aides pour ma dissertation de droit international public, s'il te plaît? Oula, non. Ça dépend, c'est quoi le sujet? De tout temps, les hommes. Est-ce que tu penses qu'il y aura une censure du gouvernement sur la loi immigration? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne vois pas pourquoi les Républicains voteraient une censure. En gros, l'opposition n'a pas plus de majorité que le gouvernement, donc c'est le bordel. Exactement. Le gouvernement n'a pas de majorité, c'est une phrase vraie. Il n'y a pas de majorité alternative au gouvernement, c'est une deuxième phrase vraie. Personne n'a de majorité à l'Assemblée nationale. Ni pour soutenir un gouvernement, quel qu'il soit, ni pour dégager le gouvernement actuellement. Et si ça se passe, quelles sont les retombées? Oh bah c'est assez simple, il y a le gouvernement saute, et le président de la République nomme un nouveau gouvernement en demandant au leader de la motion de censure adoptée de bien vouloir composer un gouvernement. Et si les leaders de la motion de censure adoptée ne sont pas en mesure d'adopter un nouveau, de présenter un nouveau gouvernement avec un soutien du Parlement, alors on se dirige tout droit vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Pas grand monde ne se voit mettre son siège en jeu pour de vrai avec une motion de censure. Alors si, 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 il y a des députés qui ont intérêt à ce qu'il y ait une dissolution. Les députés qui pensent que des élections leur seraient favorables en ce moment ont tout intérêt à ce qu'une motion de censure soit adoptée. La gauche en a très très envie. Bah, pas toute la gauche, parce que je crois que le PS n'a pas codéposé la motion de censure de la NUPES, mais ils vont peut-être l'adopter. Je sais pas, tiens, c'est une bonne question. Le RN, c'est sûr déjà. Bah, le RN, c'est certain, c'est pour ça que le RN vote les motions de censure de la gauche. Le RN pense que c'est un bon calcul pour eux qu'il y ait une dissolution demain. À tort ou à raison, j'en sais rien. Ça. Pas sûr que la gauche s'en sorte s'il y a de nouvelles élections. Ah, il y a peu de chances que la gauche s'en sorte s'il y a de nouvelles élections. Chirac se sentait en confiance pour sa dissolution, l'histoire en a décidé autrement. Exactement. Chirac et Juppé ont fait une dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Ils étaient confiants en vue des sondages de leur capacité à remporter les élections. Mais la surprise, surprise, ce sont les socialistes qui ont remporté l'élection. C'est une gauche plurielle, pour être plus précis, qui ont remporté les élections avec les communistes, les écolos et les socialistes. Actuellement, on risque de se retrouver avec une majorité de droite et extrême droite. Bah, j'en sais rien, en fait. Franchement, s'il y avait des élections demain matin, je pense qu'on aurait à peu près sensiblement la même Assemblée nationale, avec une tripolarisation, ou une tripartition, appelez ça comme vous voulez, du paysage politique, avec un gros bloc de gauche avec la NUPES et la France insoumise, un gros bloc central autour de Renaissance et d'Emmanuel Macron, et un gros bloc de droite et d'extrême droite autour de Marine Le Pen. Je pense que j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais si on faisait des élections demain matin. Je pense que seul Macron sortirait affaibli d'une dissolution. Je pense qu'Emmanuel Macron serait affaibli, oui, ça c'est sûr. Je pense que Renaissance, il perdrait un peu. Renaissance, c'est pas de droite. Renaissance, c'est là où tu veux que ce soit. C'est toi qui le places. Je pense plutôt que Macron et Renaissance pouffent dans les limbes. Je sais pas si Emmanuel Macron s'en sortirait si affaibli que ça, s'il y avait une dissolution. Leur électorat est quand même très mobilisé. J'en sais rien, tiens, c'est une bonne question. LFI aussi, il se casserait la gueule. Alors j'en sais rien, la France Insoumise pourrait potentiellement se casser la gueule, mais s'il y a une NUPES, donc s'il y a une alliance avec les autres partis, et s'ils refont la même chose qu'en juin 2022, alors la France Insoumise a toutes ses chances de remporter des sièges. D'en avoir autant, voire d'en avoir plus. Les nouvelles élections auraient lieu en combien de temps? Oh, je crois que c'est un mois et demi. C'est assez rapide, hein, s'il y a une dissolution. On rappelle que LFI est très très forte pour faire campagne. Ouais, campagne présidentielle. Après, ça s'est bien passé en juin 2022 parce qu'il y avait la NUPES, donc ils avaient un accord électoral avec les autres partis de la gauche. Si la France Insoumise y va seule, il y a le risque pour la France Insoumise qu'il se passe la même chose qu'en 2017, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec très peu de députés. Parce que dans la circonscription, il se serait gêné avec d'autres candidats de la gauche. Je rappelle que les élections législatives, ce sont des élections par circonscription, au suffrage uninominal majoritaire à deux tours, avec maintien possible à partir de 10%? 10, 12%? 12,5, c'est ça? C'est 12,5. 12,5% des inscrits, exactement. La probabilité d'un scénario de dissolution est-il fortement probable? Non, il est très faiblement probable. C'est pour ça on en parle, mais on est en train de parler d'un truc qui a très peu de chances de se passer. Hein. J'ai aussi l'impression qu'il y aurait énormément d'abstention. Et d'où la question, à qui profiterait l'abstention? Qui bénéficierait de l'abstention? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Est-ce que le positionnement de la France insoumise sur la guerre Israël-Palestine n'est pas en leur faveur du point de vue de l'opinion publique? Je suis pas persuadé de ça. Hein. Je suis pas sûr que l'opinion publique soit derrière la position défendue par la France insoumise. J'y mettrai pas ma main à couper. Est-ce qu'en 97, tout le monde parlait d'une dissolution comme actuellement où Chirac l'a sorti de son chapeau? Non, non, on en parlait un petit peu. On en parlait un petit peu puisque à l'époque, il y avait une décorrélation entre le calendrier législatif et le calendrier parlementaire. Il y avait des mandats de 7 ans pour le président de la République. Chirac venait d'être élu en 95 et il ne voulait pas attendre 1998 pour faire les élections législatives qui étaient prévues après les législatives de 1993. Qui lui était pas entièrement favorable, donc il a voulu dissoudre pour précipiter un petit peu le calendrier. Donc ouais, non, si, c'était déjà dans les têtes. À l'époque, ça se faisait. Vu qu'il y avait une décorrélation des calendriers, un nouveau président de la République, quand il était élu, il pouvait faire une dissolution assez rapidement. C'est ce qui avait été fait en 81 par Mitterrand, en 88 aussi. Il y avait plein de baladuriens, exactement. Il y avait beaucoup de députés baladuriens et Jacques Chirac qui voulait des députés chiraciens. Donc il a dissous en se disant: T'inquiète, je viens de remporter l'élection présidentielle, il y a peu de chances que je me prenne une tôle. Et là, surprise, surprise, les Français, ils ont dit: Non, finalement, on va mettre Jospin Premier ministre, on préfère. Lol. Plus que 237 euros avant le prochain palier, on est proche. Ouais, la barre que vous voyez là, c'est la barre des dons mensuels. C'est la barre des dons mensuels que reçoit l'émission Backseat, qui nous permet de financer cette belle émission. Charge à vous, du coup, de participer au financement de Backseat en vous abonnant sur KissKissBankBank, point d'exclamation KissKiss dans le chat, point d'exclamation Backseat, ça marche aussi. Et voilà. D'ailleurs, je précise que jeudi prochain, ce jeudi, Il n'y a pas Baxit. Ça, c'était prévu dans le calendrier, donc il n'y a pas Baxit, c'est les vacances. En revanche, à la place, on va faire une émission privée, on va faire un live privé qui sera réservé aux donateurs de Baxit. Les donateurs qui donnent plus de 10 euros par mois à l'émission pourront assister à une émission spéciale, un live, au cours duquel on va présenter l'équipe de Baxit, on va répondre à vos questions, vous allez pouvoir discuter avec nous, et voilà. C'est réservé aux donateurs qui donnent minimum 10 euros par mois. Donc ça comprend les dons à 10 euros mensuels, les dons à 15 euros, donc le club Baxit, etc. Et on a des choses à vous dire, on a des exclus à vous dire, on a des retours à prendre aussi, on serait content d'avoir vos réactions, que vous nous disiez comment on peut améliorer l'émission. Donc voilà, ça aura lieu jeudi. Ce sera pas sur ma chaîne Twitch, donc ce sera pas un live public, ce sera réservé aux abonnés et ils vont recevoir un mail. Est-ce qu'il y aura une rediff? Il y aura une rediff qui ne sera accessible qu'aux donateurs. Comment tu expliques que l'on connaisse si peu l'histoire du centre français et que du coup Renaissance est placée au centre quand on voit la différence avec le modem par exemple? C'est toi qui places Renaissance au centre. Je vous ai dit, vous placez les parties où vous voulez, hein. Ça n'en dit pas beaucoup sur les parties, ça en dit plus sur vous, parce que c'est vous qui les positionnez. On connaît mal l'histoire du centre français. Bah, on connaît mal l'histoire du centre français parce que le centre français n'a pas toujours brillé électoralement. Fondamentalement, le centre français, il a eu ses heures de gloire avec Giscard dans les années 70. Puis, il y a eu une bipartition entre le PS et le RPR, qui plus tard est devenu l'UMP, qui plus tard est devenu les Républicains. Puis, le centre français est rené en 2010, en 2016-2017 avec Emmanuel Macron. Mine de rien, le centre français, il a une longue histoire, mais c'est pas tous les jours qu'il est au pouvoir. Les trotskistes n'ont jamais brillé et pourtant on les connaît. Très très peu de gens qui connaissent les trotskistes, hein. Le trotskisme en France, faut vraiment être un mec de gauche passionné pour être capable d'en donner une définition. Je pense que la grande majorité de la population française, tu leur demandes le trotskisme, ils te disent quoi? Qui ça? Peut-on dire que Renaissance est au centre? On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas. Comme je vous l'ai expliqué dans un TikTok et dans une FAQ il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de définition universelle et intemporelle de la droite, de la gauche et du centre. Il n'y a que des définitions subjectives. Ou des conventions, dans les grandes marges, dans les grandes lignes. Si on t'écoute, la droite et la gauche n'existent pas. Si, la droite et la gauche, ça existe, mais ce ne sont que des conventions. Il n'y a pas de vérité absolue. Qui a pété ma commande TikTok? Ah, elle marche plus la commande TikTok? Merde. Comment est choisi le placement dans l'hémicycle des partis? Pourquoi il est placé à gauche et le RN à droite? Ça, c'est que ça, c'est l'habitude, ça fait 2 siècles. Ça fait à peu près 2 siècles que c'est comme ça. D'ailleurs, c'est même de là que vient la notion de droite et de gauche. On définit la droite et la gauche par rapport à l'endroit où s'assoient les députés par rapport au président de l'Assemblée. Donc à la droite du président, il y a la droite, à la gauche du président, il y a la gauche. Et ce n'est valable que pour les grands ensembles. Il n'y a pas de définition objective de gauche et droite. Il n'y a pas de définition objective de gauche et droite. En géographie, la gauche et la droite, ça n'existe pas. Ce sont. Enfin, ça n'existe pas. Non, je vais repréciser. Ça n'existe pas à l'état naturel. La planète Terre n'a pas de gauche et de droite. Il y a des humains à la surface de la petite planète Terre qui ont décidé collectivement de dire par convention que cette main-là, c'était la main gauche et que cette main-là, c'était la main droite. Mais pareil, les mains, la nature ne dit rien de ça. Donc ce sont des conventions entre êtres humains. On met des mots de vocabulaire sur des choses pour se comprendre quand on se parle. En politique, c'est pareil. En politique, c'est pareil. On a des conventions pour se comprendre quand on parle de la gauche. Quand on dit la gauche est divisée, on comprend tous à peu près de quoi on parle. On rentre pas trop dans le détail, on reste vague, mais on sait que ça représente à peu près telle famille de pensée politique, au pluriel. La droite, c'est pareil. L'ADN est orienté, ça s'appelle la chiralité en chimie. Ah ouais, ça je savais pas. On ne dit pas la gauche est divisée, elle l'est tout le temps. Ouais, mais ça c'est ce qui fait son charme. C'est pour ça qu'on aime bien en parler de la gauche. Du coup, les députés, ils s'assoient où ils veulent. Non, les députés, ils ont des places attribuées. Ils ne peuvent changer de place que si la place sur laquelle ils vont s'asseoir n'est pas déjà occupée par un collègue. Quand on parle de gauche et de droite en politique à l'étranger, ça vient aussi de la France à la base. Non, la France n'est pas le centre du monde. Les autres pays ont aussi une histoire, ont aussi une démocratie, une république, un régime quel qu'il soit. C'est pas la France le centre du monde. Par contre, il y a des phénomènes de mimétisme liés à la mondialisation et surtout liés à la colonisation qui fait qu'on retrouve des systèmes politiques d'inspiration française dans beaucoup de pays dans le monde ou d'inspiration britannique dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Comment ça, on n'est pas le centre du monde? Eh non, terrible! Eh non, c'est horrible, hein. La dernière fois que les scientifiques ont regardé, ils ont constaté que le monde ne tournait pas autour de notre nombril. Moi, j'aurais bien voulu, hein. Inadmissible. Ah, mais je suis d'accord. De toute façon, ça doit être des scientifiques payés par les labos. Oui, car la notion politique de droite et de gauche sont liées à la Révolution française sur le droit de veto et le gros capet ou non. Ça, c'est un peu un mythe. C'est un mythe fondateur, mais c'est un mythe. L'idée que la gauche et la droite seraient nées le jour où la Convention nationale a décidé sur le sort de, sur le droit de veto du roi. C'est plutôt dans la deuxième partie du 19e siècle que le parlementarisme français a été créé et que sont nées les notions de droite et de gauche. Pendant la Révolution française, pendant la Convention nationale, il y avait d'autres types d'organisations. Il y avait la montagne, il y avait le... Merde, le marais. Il y avait la... Il y avait... Comment on les appelait? Bon, il y avait les enragés. Il y avait des clubs à l'époque. La plaine. Oui, c'est ça, la plaine, le marais, les montagnards. Ensuite, il y avait les clubs. Les Girondins, les Justiniens, tout ça, les Jacobins. Et donc à l'époque, ils s'asseyaient pas tant en droite et en gauche que en hauteur et plus bas. Et donc ça n'a pas perduré. D'ailleurs, si vous regardez la Convention nationale, c'était pas un hémicycle. Regardez. Hop. Essayez de vous montrer. Je vais essayer de choper une image un peu au hasard sur Internet. Hop. Voilà, regardez. La Convention nationale, il s'asseyait comme ça. C'était un chouïa plus compliqué. C'était joli, remarque. Là, ça commence déjà plus à ressembler à un hémicycle. Bon, ils étaient bien sapés aussi, les députés, à l'époque, je trouve. Oh, c'est pas mal. Merci Doefs pour ton resub, merci Klaxar, merci Sliva, merci oui mon capitaine, merci beaucoup pour vos abonnements, merci Mademoiselle Lutte, merci The Crazy Head Gamer, merci Zetni, merci Tenval, merci Le Luxo, merci pour vos abonnements, merci beaucoup. pour votre soutien. Donc je vous disais, revue d'actu politique, j'ai quelques articles que je me suis mis de côté pour qu'on en discute. Bah tiens, puisqu'on en parlait justement, l'explosion de la NUPES. On a une tribune écrite par Rémi Lefebvre dans Le Monde qui essaye d'expliquer ce qui se passe en ce moment à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je vous propose qu'on lise cet article pour commencer. La NUPES explose sous les effets de la controverse de trop, le conflit israélo-palestinien. Pour exister, la NUPES, qui a rassemblé les forces de gauche insoumises, écologistes, socialistes et communistes, aurait dû être autre chose qu'une alliance électorale opportuniste et parvenir à des convergences politiques, résume dans une tribune au Monde le professeur de sciences politiques. Donc Rémi Lefebvre, qui est prof de sciences politiques, estime que la NUPES est en train d'exploser et nous explique pourquoi, quelle est cette faiblesse qu'il identifie. On va lire ça et on en discute. La nouvelle Union populaire écologique et sociale est-elle morte? Le Parti socialiste a voté un moratoire sur sa participation aux travaux de l'intergroupe parlementaire. Elle est donc formellement suspendue. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, ciblant Jean-Luc Mélenchon et non la France insoumise, en faisant le pari dans son isolement. Le diagnostic vital semble néanmoins engagé. Depuis des mois, la cacophonie et les stratégies de différenciation personnelle, illustrées par Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, règnent à gauche. Ces divergences se multiplient, brouillant et rendant inaudible son discours politique. Alors je sais pas pourquoi il a mis Sandrine Rousseau à côté de Fabien Roussel, parce que autant la stratégie de différenciation personnelle, je la vois très très bien dans la stratégie de Fabien Roussel, d'ailleurs c'était ça qui a permis à Fabien Roussel d'être élu à la tête du Parti communiste, c'était justement la stratégie de différenciation et d'autonomisation de la ligne communiste, la singularité communiste parmi la gauche, etc. Sandrine Rousseau, est-ce qu'elle a une stratégie de différenciation personnelle vis-à-vis des autres membres de la NUPES? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que c'est Le Monde. Alors en l'occurrence, c'est pas Le Monde, c'est une tribune de Rémi Lefebvre. Rémi Lefebvre n'est pas journaliste au Monde, c'est une tribune qu'on est en train de lire, c'est pas un article du Monde. Sandrine Rousseau a demandé à une pause le temps de mettre en place les moyens de discussion interne à la NUPES. Ah, ça fait référence à ça? Bah ouais, mais pour moi, ça c'est pas une différenciation personnelle. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Non mais j'entends. On continue. Mais la NUPES a-t-elle vraiment existé? Elle est autre chose qu'un accord électoral post-présidentiel? Est-elle autre chose qu'un accord post-électoral post-présidentiel de circonstance négocié en quelques jours pour doper la représentation parlementaire de la France insoumise, maintenir les groupes parlementaires de ses associés rivaux et le financement public adhérent de leurs organisations? La dotation de l'État, principale ressource des partis, est fonction du nombre de députés et du nombre d'électeurs au scrutin législatif. Une question assez provoque de la part de Rémi Lefebvre, qui demande si finalement la NUPES, c'est pas autre chose que simplement un accord électoral post-présidentiel de circonstance. Intéressant. Je vois où est l'idée. Je ne sais pas si je serais aussi cynique, mais je comprends l'idée. L'accord signé en mai 2022 est à la fois soudain et d'une ampleur historique inédite. Après des années de division, les parties prenantes optent pour une répartition des candidatures aux élections législatives dès le premier tour de la base du rapport, sur la base du rapport de force électorale présidentielle, très favorable à la France insoumise. Rappelons que les alliances de gauche précédentes, programme commun de 72, la gauche plurielle de 97, étaient surtout des accords de désistement de second tour. C'est vrai. C'est vrai. La gauche plurielle en 97, c'était surtout des désistements. Et non pas on fait campagne derrière la même personne. L'alliance, aussi radicale dans sa forme que superficielle dans sa confrontation idéologique, a eu un vice initial. Elle fige le système partisan à gauche et conforte les partis existants, alors que l'absence de rassemblement et ses effets électoraux auraient sans doute conduit à des recompositions partisanes. Chaque organisation cherche depuis à réaffirmer ses intérêts, principalement électoraux, d'autant que les socialistes, écologistes et communistes se sentent floués par l'accord. Ah, c'est intéressant. La NUPES, ça fige un système partisan à gauche. Ouais, ça je suis d'accord. Et ça conforte les partis existants, alors que l'absence de rassemblement et ses effets électoraux, une lourde effet de main, auraient sans doute conduit à des recompositions partisanes. Donc l'idée défendue par Rémi Lefebvre, c'est que la NUPES a eu comme inconvénient de figer les partis tels qu'ils étaient, alors qu'en réalité, les électeurs de gauche n'étaient pas d'accord avec ces partis. Et que du coup, la NUPES a empêché un travail de recomposition partisane qui aurait pourtant dû découler de ce qui s'est passé en 2022. Je comprends l'idée. Si la NUPES n'avait pas eu lieu, il y aurait eu une recomposition partisane. Alors, point d'interrogation, hein. Moi, je veux bien, mais... Le congrès du PS, en janvier dernier, comme celui du PCF en septembre 2022, ont achoppé sur le rapport à la France insoumise. En défendant la légitimité d'une liste autonome aux élections européennes, leur scrutin, les écologistes ont marqué leur refus d'une dilution de leurs marqueurs dans un ensemble plus large. Quant aux insoumis, ils jugent leur ligne politique non négociable compte tenu du leadership de Jean-Luc Mélenchon. La ligne politique conflictuelle, tribunicienne et anti-atlantiste. Autant je suis d'accord avec le début, en disant que les écologistes ont marqué leur refus d'une dilution, ça d'accord. Autant l'idée que les insoumis seraient incapables de négocier leur ligne politique, c'est pas ce que j'ai vu. On a quand même eu la France insoumise qui a mis de l'eau dans son vin sur certains trucs, pour la NUPES. Bon, en revanche, sur la stratégie, ça c'est sûr, ça la stratégie, bah, tu vois, le côté conflictuel tribunicien. Pour moi, ça, c'est pas une ligne politique, c'est une méthode politique, c'est une stratégie. Anti-atlantiste, ça, je veux bien. Mais. Ainsi, la NUPES, alliance bancale et invertébrée, n'aurait nullement la logique de reproduction des appareils partisans. Depuis le début, elle n'est qu'une coalition faiblement intégrée, ça c'est vrai, et un dispositif politique peu sophistiqué qui tient à une coordination parlementaire. Elle ne s'est en rien approfondie ou consolidée. Aucun fonctionnement unitaire dans les territoires n'a véritablement été envisagé. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai, la NUPES, ça n'existe pas. Pour les enfin, ça n'existe que pour les électeurs qu'aux élections législatives, ça n'existe pas pour les militants. On ne peut pas adhérer à la NUPES, il n'y a pas d'intergroupe au niveau départemental, au niveau régional, ça n'existe que par un intergroupe au niveau parlementaire. Mais bon, j'ai envie de dire, les réunions qui se passent dans des bureaux à l'Assemblée nationale le mardi matin, ça ne concerne pas tous les Français, ni tous les électeurs de gauche. Donc c'est vrai que la NUPES, c'est resté un truc quand même assez vague, assez flou, c'est une marque, au mieux. Le Parlement de la NUPES n'a pas été relancé. C'est vrai ça? Ça devient quoi le Parlement de la NUPES? Ce truc-là qui avait été promis et tout. Les forces en présence n'ont pas engagé un travail programmatique qui aurait pu aller au-delà des négociations rapides de mai 2022. Ah, je suis pas d'accord parce que sur les européennes, il y a eu des propositions qui ont été faites. Je reconnais que ça n'a pas eu lieu, mais des propositions ont été faites. Notamment faites par la France Insoumise. Justement, dans son côté unitaire. La France Insoumise a proposé un travail programmatique, donc on peut pas dire la NUPES n'a pas fait de travail, on peut dire que certains ont refusé le travail. Auquel cas, il aurait fallu que ce paragraphe-là soit d'accord avec les écologistes qui ont marqué leur refus d'une dilution. C'est les écolos qui ont refusé un travail programmatique, c'est pas les insoumis, ils l'ont proposé. J'en étais où? Il aurait pu pourtant, donc le travail programmatique, il aurait pu pourtant permettre une mise à plat et un dépassement des divergences sur la laïcité, la police, la politique extérieure, la stratégie parlementaire. Aussi, l'acte 2 de la NUPES n'a jamais eu lieu, et ça c'est vrai. K1KA, l'alliance s'est maintenue parce que l'opinion publique de gauche est très unitaire et qu'aucun parti ne veut se voir imputer le retour à la division. Elle explose aujourd'hui sous l'effet d'une controverse de trop, le conflit israélo-palestinien, dans une relative indifférence de l'opinion, lassée par ses luttes picrocholines. Et ça c'est vrai. Ça je suis assez d'accord pour dire que sur la question du conflit israélo-palestinien, l'opinion publique n'est pas passionnée par ce qui se passe à la NUPES. La NUPES énerve tout le monde, désespère, exaspère. Elle n'est pas du tout en train de créer un élan collectif, y compris à gauche. Ça emmerde un peu tout le monde, ces histoires. C'est d'ailleurs ce que disait Sandrine Rousseau, sur le plateau de l'excellente émission Backseat jeudi dernier. Les adversaires de Jean-Luc Mélenchon se félicitent d'une clarification inévitable et de l'issue fatale d'une alliance artificielle. La gauche est pourtant condamnée à reprendre le chemin de l'union. Dans un jeu politique structuré autour de trois blocs, elle est trop faible pour être divisée. Les gauches irréconciliables, c'est la certitude de l'échec total, électoral. La gauche est en effet dominée idéologiquement. Je suis parfaitement d'accord avec ce truc-là. Les socialistes, les communistes et les écologistes qui aujourd'hui font la fête parce qu'ils sont contents qu'il y ait une clarification, que la NUPES n'existe plus, etc., ils ne se rendent pas compte que la tripolarisation du paysage politique fait que l'union est nécessaire et absolument nécessaire. La gauche ne peut pas se permettre de se comporter comme entre 1997 et 2002, à une époque où elle dominait un peu plus électoralement. D'ailleurs, on a vu ce que ça avait donné en 2002, d'ailleurs, ce comportement. La gauche est dominée, elle n'est pas en position dominante. Elle est totalement dominée, elle est acculée de haut au mur, et donc l'union est une nécessité absolue, que ça leur fasse plaisir ou non. Ça, je suis absolument d'accord. Depuis des mois, La gauche subit un agenda politique et médiatique polarisé autour de questions, l'immigration, la laïcité, la sécurité, les émeutes, l'identité, la politique extérieure, qui la mettent en porte-à-faux. Alors que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure dans l'opinion publique, la gauche ne parvient pas à imposer les enjeux socio-économiques qui lui sont plus favorables. Ça, je suis d'accord. Malgré les belles tentatives, je pense notamment à François Ruffin, la gauche n'arrive pas à donner le tempo dans l'opinion publique. Elle est complètement sous l'eau. Ben, regardez juste les derniers trucs d'actualité. Il y a eu les émeutes après Naël, où la gauche était complètement dos au mur et complètement dominée par un système politique et médiatique qui les écrasait. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est pas loin d'être pareil, encore que. Sur la rentrée, enfin bref. À chaque fois qu'il se passe un truc, la gauche en prend plein la gueule. Au lieu de mettre en avant collectivement ces convergences, elle donne l'impression d'être repliée sur des questions qui n'intéressent que les petites sociétés militantes et numériques que forment les partis. En gros, il n'y a que les militants Twitter que ça intéresse. Le grand public, lui, y baisse les bras et y regarde ailleurs. La gauche partisane forme un petit entre-soi dans un état de grande faiblesse organisationnelle, c'est vrai. La base militante est un étiage historique. On dénombre à peine 100 000 militants actifs, toutes organisations comprises. La gauche n'a jamais été aussi faible en termes de force militante qu'aujourd'hui. Alors que la menace de l'extrême droite se fait de plus en plus forte, la gauche apparaît trop démunie et démobilisée pour prendre part à une bataille culturelle. C'est dur comme constat, mais c'est assez juste. S'il est nécessaire, le rassemblement ne suffira pas pour autant. Le salut de la gauche ne peut tenir à une seule alliance électorale et à un arrangement d'appareil, peu en prise avec la société. C'est un des défauts de la NUPES, de s'être replié sur le jeu mortifère des partis et de n'avoir pas su souffrir sur la gauche sociétale, celle des intellectuels, des associations, des syndicats, des ONG, du féminisme, de l'écologie. C'est exactement ce qu'aurait dû être le Parlement de la NUPES, qui n'a jamais existé. C'est exactement ça que ça aurait dû être. Où on se désespère de son rétrécissement. Il y a vraiment un truc qui a été loupé à l'été 2022 sur les cendres de l'accord électoral de la NUPES. Il aurait dû naître un appareil partisan qui permet la discussion collective sur ces thématiques-là. C'était le projet. Je me souviens que ça avait été promis comme tel. Rappelez-vous les émissions Backseat qu'on faisait à l'époque, mais on n'a pas réussi. Aucune place n'a été laissée à cette galaxie qui peut pourtant régénérer la gauche et qui veut reprendre part à sa construction. Le renouveau de la gauche ne peut venir qu'en dehors des partis et d'une mise à distance de leur seule logique électorale. Mais comment les déborder? Comment déborder les partis politiques? Entre 2017 et 2022, la rencontre des justices, qui était un rassemblement de la société civile, ou la primaire populaire, ont été des expériences novatrices, mais qui se sont heurtées au mur des partis et de la place centrale de l'élection présidentielle qui dévore toutes les énergies. Rappelez-vous comment la primaire populaire était traitée par les militants insoumis. Rappelez-vous le niveau de toxicité qu'on constatait sur la question de la primaire populaire. C'est un excellent exemple de justement les tentatives de débordement des partis par la société civile qui échouent et qui se pètent les dents sur le mur des partis politiques et de leur logique partisane. La fin de cycle de la NUPES peut être utile si elle amène à poser à nouveaux frais la nécessaire reconstruction de la gauche et le dépassement de ses logiques partisanes. Voilà donc cette tribune assez salée de la part de Rémi Lefebvre, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lille. Et non, c'est intéressant. J'en partage une partie des attendus, mais pas tous. Et je reconnais que, ouais, la NUPES, elle a manqué une étape après 2022, et qu'aujourd'hui, en fait, les appareils ont repris complètement la possession du truc, et que du coup, il n'y a plus grand-chose à attendre de la part des appareils, c'est pas les partis politiques qui vont créer quoi que ce soit. Est-ce que la suite de l'histoire va être écrite par des personnalités charismatiques indépendantes, un François Ruffin? Je sais pas. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Je pense pas. Est-ce qu'ils en ont l'envie? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a toujours cette question de personne ne veut paraître pour le diviseur, personne ne veut jouer sa petite partition personnelle. Pour un prof de sciences politiques, je trouve pas la tribune ouf. Niveau analyse, c'est au ras des pâquerettes. Eh bah, ben, hésite pas, Papy Gandalf, à nous faire profiter tes lumières. Si t'as une meilleure analyse, moi, je suis preneur. J'essaie de réfléchir sur la base de cet article à ce qui pourrait se passer dans la suite des événements. Je n'arrive pas à voir... En fait, je me pose la question de savoir si l'antiracisme peut devenir le nouveau terreau sur lequel peut naître une initiative politique qui dépasserait les partis, qui réussirait ce fameux débordement des partis. Franchement, j'en vois pas la couleur. J'en vois pas la couleur. Est-ce que ce serait l'antiracisme? Est-ce que ce serait l'écologisme? S'opposer ne fait pas un programme. Et c'est ouais, en fait, je suis assez d'accord avec toi, Amiche Molette. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que si c'est un mouvement social, regardez par exemple le mouvement social des retraites, qui a été un immense mouvement social. Et ben même ce mouvement social-là, il y a eu des bisbilles entre les partis sur la stratégie. Au moment où toute la gauche, au moment où tout le pays était proche de la gauche dans son opposition à la réforme des retraites, et ben la gauche ne montrait pas un visage rassemblé, elle montrait un visage divisé parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie, sur la conflictualisation, sur le lien avec les organisations syndicales, etc. L'antiracisme, le féminisme et l'écologie, ça doit être ça, le terreau fertile de la gauche. Ouais, mais pourquoi est-ce que c'est pas le cas? En même temps, imagine-t-on un gouvernement NUPES abroger la réforme et, et rétablir la retraite à 60 ans? C'est très difficilement imaginable. Mais bon, encore une fois, quand la gauche arrive en pouvoir, quand la gauche arrive au pouvoir dans ce pays, c'est toujours une effraction. Ça paraît toujours absolument irréaliste. C'est pour ça que la gauche déçoit une fois qu'elle est au pouvoir. C'est parce qu'elle promet des trucs de gauche et qu'ensuite elle se heurte à la réalité dure et que ça passe pas. Le meilleur exemple, c'est François Hollande qui se fait élire en 2012 en promettant qu'il va renégocier les traités européens. Sauf que le problème, c'est que pour négocier, il faut être plusieurs. Et en face de lui, il avait Angela Merkel qui a triomphalement été réélue en 2013. Donc autant dire que ta renégociation, tu vas te la foutre au cul. La réalité est de droite. La réalité est pas forcément de droite. C'est pas. Ouais, non, ça. Non. Mais l'exercice du pouvoir est souvent décevant, déceptif pour la gauche quand elle arrive au pouvoir. C'est pas très poli, Madame Merkel. Bah ouais, pourtant les Français ont demandé poliment, quoi. La gauche a jamais été au pouvoir. Oui, c'est une manière plus facile de s'en sortir. Sauf si on s'appelle Maduro. Ouais. Donc, voilà pour l'état de la NUPES. Hop, 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 attends, je regarde. Hop, hop, hop. IVG dans la Constitution. Ça aussi, c'est un autre sujet qui est en train de revenir. Figurez-vous qu'Emmanuel Macron a sorti de manière surprenante un projet de loi pour inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Je vous propose qu'on lise un article qui récapitule ça de Tristan Quinault-Maupoil pour le Figaro Politique. IVG dans la Constitution, Macron dégaine un texte pour éviter le référendum. Éviter le référendum. Visiblement, Emmanuel Macron a tranché. Le président de la République a déclaré sur Twitter que ce projet de loi constitutionnelle serait présenté en Conseil des ministres d'ici la fin d'année. La constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse pourrait aboutir lors du premier semestre 2024. C'est le souhait du président de la République qui a affirmé dimanche sur les réseaux sociaux que la liberté des femmes d'y recourir sera irréversible l'année prochaine, 2024. Un projet de loi constitutionnelle va être envoyé au Conseil d'État ces prochains jours avant d'être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Ça, je vous avais déjà expliqué comment ça fonctionne, le Conseil d'État qui participe à la relecture des projets de loi avant qu'ils soient adoptés en Conseil des ministres pour les border juridiquement. Permettant une discussion parlementaire au premier semestre 2024 visant à entériner le texte par au moins 3/5 des parlementaires réunis lors du Congrès. Mais pourtant, il y avait déjà une proposition de loi constitutionnelle qui avait été adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les Insoumis avaient fait un compromis avec la droite sénatoriale pour parvenir au même texte. Je me souviens, on en avait parlé. Permettant une discussion parlementaire au premier semestre 2024 visant à entériner le texte par au moins des 3/5 des parlementaires réunis lors du Congrès. Le Congrès qui peut modifier la Constitution. Tout comme le référendum, je le rappelle. Emmanuel Macron précise ainsi avec quel agenda et quelle méthode il entend concrétiser un débat qui a surgi dans l'Hexagone en 2022. Après que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit fédéral à l'IVG, l'actuelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, alors patronne des députés du parti présidentiel Renaissance, avait annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour prévenir tout retour en arrière en France. Elle avait finalement retiré son texte après que les Insoumis avaient été parvenus à former un consensus autour de leur palais Bourbon. Autour du leur, pardon, au palais Bourbon. Donc, effectivement, on se souvient de cette époque-là. On va écouter l'extrait de Macron.
Le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Aussi, les avancées issues des débats parlementaires à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairée par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois.
Ah mais du coup ?
Non. Nous ne voulons plus jamais de procès de Bobigny.
Du coup, si j'entends bien les mots du président de la République, il évoque un projet de loi de révision de la Constitution dans lequel il y aura, entre autres, l'IVG. Donc on en revient à ce qu'on disait déjà sur le plateau de Baxit il y a un mois à peu près. Emmanuel Macron prépare une révision de la Constitution qui passerait par le Congrès probablement et non pas par référendum, dans lequel il y aura plusieurs mesures, dont l'IVG. Il ne va pas réunir le Congrès que pour ça. Enfin, c'est ce qu'en l'état actuel des choses, je comprends. Peut-être que je me plante. Il va mettre l'IVG avec plein de trucs. Ouais, c'est ça. À la surprise de tous, le Sénat avait ensuite adopté la proposition de loi en février 2023, tout en modifiant le terme de droit à l'IVG au profit de liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Une reformulation qui avait été saluée par l'exécutif au nom de la recherche du compromis indispensable et à l'aboutissement de la proposition de loi. Celle-ci aurait pu être renvoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, en particulier le 30 novembre prochain, lors de la niche parlementaire des Insoumis. Une adoption aurait alors impliqué un référendum. Mais l'Élysée, voulant éviter la tenue d'un tel débat de société dans les urnes, le projet de loi annoncé par Emmanuel Macron doit permettre l'adoption de la constitutionnalisation de l'IVG par l'accord des 3/5 du Congrès. Un référendum aurait abouti à un débat inutile pour ou contre l'IVG. Lors d'un référendum, le temps de parole étant égalitaire, ça aurait donné aux opposants au texte une tribune disproportionnée, relève l'Élysée, pour justifier cette nouvelle méthodologie. Et ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Élysée revendique de passer par le Congrès et non pas par le référendum pour protéger le droit à l'IVG contre un débat dans lequel on aurait été obligé de donner 50% du temps de parole aux personnes qui sont contre l'IVG. À garder en tête, c'est qui le Congrès ? Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, ensemble. La formulation retenue par le chef de l'État reprend celle du Sénat pour s'assurer le compromis le plus large possible au Parlement. L'exécutif souhaite ajouter l'article 34 de la Constitution. L'exécutif souhaite ajouter à l'article 34 de la Constitution, le domaine de la loi, que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme qui lui est garantie d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Bien que moins maximaliste que celle initialement proposée par la gauche, la démarche est saluée par la France insoumise. C'est une victoire pour les associations, les collectifs, les militantes qui se battent pour que le droit des femmes à disposer de leur corps soit enfin garanti, a réagi Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis. La majorité devrait s'inspirer plus souvent des propositions faites par LFI, a complété son coordinateur Manuel Bompard dans l'émission Questions politiques. Donc, le fait de repartir sur le compromis du Sénat, qui est validé par les insoumis, même si c'est un compromis qui est moins fort que ce que les insoumis avaient proposé, je vous rappelle que les insoumis ont fait un compromis. Ça, du coup, ça répond à toute la question. Ça répond aux gens qui passent leur temps à dire que les insoumis sont incapables de faire des compromis. C'est pas vrai. Ils l'ont fait sur l'IVG. Il y a eu un compromis qui a été trouvé. La NUPES aussi est un compromis de la part de la France insoumise. On continue. Je ferme cette parenthèse. De son côté, Marine Le Pen a tensé une démarche qui arrive complètement à contre-temps de ce que vivent les Français. Le président est obnubilé par quelque chose de totalement inutile, car aucun mouvement politique ne demande la remise en cause de l'IVG en France, a affirmé sur France 3 l'ex-candidate RN à l'élection présidentielle, qui avait tout de même voté en faveur de la proposition de loi LFI en 2022. Bien que son groupe n'était pas unanime sur le sujet, comme les Républicains. Si l'annonce d'Emmanuel Macron a été peu commentée à droite, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a jugé dimanche sur BFM TV important de reconnaître cette liberté, ce droit pour les femmes de notre pays. Voilà donc comment on est en train d'arriver petit à petit à un accord, un compromis politique entre le chef de l'État, les Insoumis et le Rassemblement National qui, lui, n'est pas d'accord sur le fond, même s'ils avaient voté dans les termes. Mais qui stratégiquement trouve que c'est inutile. Ce qui est probablement la moindre des oppositions. Ou la moindre des raisons de s'opposer, pour être plus précis. Mais moi, ce que je retiens là de la vidéo qu'on a regardée d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y aura une réforme de la Constitution dans laquelle il y aura autre chose. On ne va pas juste s'amuser à réunir le Congrès pour changer l'article 34. Et très bien l'article 34, c'est très bien de le changer. Moi, je suis pour, on peut le changer tous les matins. On peut foutre du domaine réglementaire dans le domaine législatif, ça m'arrangerait, mais on fait pas un congrès juste pour ça. C'est prévu pour quand la révision de la Constitution? Pour l'instant, on n'a pas de calendrier. On estime que ce serait au premier trimestre 2024. S'il y a IVG plus la fin de la limitation de mandat, comment je vote en mon âme et conscience? Tiens, c'est une bonne question, ça. Et ça, du coup, c'est une question que tous les électeurs vont devoir se faire. Est-ce que vous êtes prêts à faire un compromis avec Macron? Ce serait si drôle, PTDR. Bah ouais, exactement. Donc vous n'êtes pas prêts à faire un compromis avec Macron. Donc vous êtes prêts à voter contre l'IVG dans la Constitution? Au prétexte qu'il y a d'autres dispositions que vous ne soutenez pas. Intéressant. Ça doit être des hommes qui disent ça. Intéressant. Non, mais intéressant. Ça dépend des dispositions. Bah, ça dépend des dispositions. Mais il faudrait qu'on reprenne les... Je sais plus si j'avais pris des notes à l'époque, mais sur les propositions justement institutionnelles du président de la République, il y a pas mal de choses qui sont consensuelles dans les propositions qu'il fait, et il y en a d'autres qui sont potentiellement un peu plus dures. Franchement, ça dépend, mais dire non à l'IVG, c'est dur. Bah ouais. Il y a que des hommes dans le chat, je suis révolté. Il y a à peu près 75% d'hommes dans ma communauté, dans les viewers réguliers de ma chaîne. Je suis une femme, tout dépend de ce qui est proposé avec. Si c'est un truc sur l'immigration, genre encore plus sévère, tant pis pour l'IVG. Ok. Qu'est-ce qu'on avait mis dans la réforme des institutions prévue par Emmanuel Macron? Alors si on reprend le texte de 2018 qui a été abandonné suite à l'affaire Benalla, il y avait la suppression de la Cour de justice de la République pour envoyer les ministres délinquants devant la justice de droit commun. Il y avait la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Il y a probablement des dispositions sur la Nouvelle-Calédonie, sur le droit à la différenciation des territoires. Une plus large... un peu plus de parlementarisme aussi. Pourquoi ne pas proposer un vote par proposition et pas un tiers groupé? Parce que, justement, c'est tout le problème, c'est qu'il y a une cohérence. De la même manière que tu ne peux pas voter pour seulement une partie du programme d'un candidat, il y a une cohérence de programme, tu dois voter pour un candidat. Et bien, c'est pareil pour une révision de la Constitution. Ou alors, il faudrait qu'ils fassent plusieurs congrès les uns après les autres. Mais on ne réunit pas un congrès dont on sait qu'on n'aura pas les 3/5. Plus de parlementarisme avec point de parlementaire, ouais, c'était la proposition. Peut-être qu'il veut rajouter le cumul des mandats. Tiens, le retour sur la loi de 2014 qui a interdit le cumul des mandats. C'est quoi un congrès déjà? Un congrès, c'est la réunion de tous les députés et de tous les sénateurs en même temps. Et ça s'appelle un congrès. et il a la possibilité de modifier la Constitution, le Congrès. Mais la majorité, c'est les 3/5 des voix qu'il faut avoir. Donc il faut avoir une large majorité au Congrès pour changer la Constitution. Le retour au septennat. Peut-être qu'il y aurait un retour au septennat. Je sais pas. Troisième mandat consécutif. Ah, est-ce que Emmanuel Macron mettrait dans la révision de la Constitution la possibilité pour lui de se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle? À mon avis, il serait tenté de le faire. Mais est-ce qu'il le fera? Imaginez, scénario. Emmanuel Macron propose une réforme de la Constitution dans laquelle il y a plein de trucs de gauche. Plein. Genre quasiment tout ce que la gauche a toujours eu envie d'avoir. Mais il y a un article qui précise que le président de la République peut se représenter à sa propre succession. Qu'est-ce que vous faites? Genre suppression du 49-3, parlementariste, le Parlement a la main sur l'ensemble de l'agenda, beaucoup plus de parlementarisme, etc. La proportionnelle intégrale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui plaît à la gauche dans la Constitution? Bref, toute la 6ème République. Mais Emmanuel Macron change l'article sur lequel il peut se présenter une troisième fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la surprise! Surprise! Emmanuel Macron est réélu pour une troisième fois en 2027, mais les Français, qui ont beaucoup d'humour, décident de mettre la NUPES au pouvoir, aux législatives de 2027. Hop, on se retrouve en cohabitation. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Il a une majorité relative. Majorité relative et divisée, sinon c'est pas drôle. Ah bah là, va falloir s'abonner à ma chaîne, hein, parce que on va rigoler. Hein. On va vivre un grand moment. On va vivre un très très grand moment. Mélenchon Premier ministre, Emmanuel Macron président pour un troisième quinquennat. On a beaucoup d'humour. Ah ça. Et du coup, se met en place une application difficile de l'avenir en commun. Non, honnêtement, j'en sais rien. Bon, évidemment, c'est des si enchâssés dans des si, donc c'est probablement improbable ce truc, mais la politesse du désespoir, exactement. Tes utopies font peur. Ah, j'ai pas dit si c'était une utopie ou une dystopie, hein. Ça, c'est à vous de voir. J'adore tes scénarios de politique fiction. On verra. En tout cas, ce qui est le plus probable, c'est qu'Emmanuel Macron propose une réforme de la Constitution dans laquelle il y a, entre autres, l'inscription du droit à l'IVG. Hop, regardez. J'ai un autre article, d'ailleurs, de Libé, cette fois-ci. On a eu un article du Figaro, maintenant on va regarder du côté de Libé. Macron avance encore contraint et forcé sur l'IVG. Indiscrétion piquante. Ah oui, non, merde, c'est chez Paul, putain, je suis con. Et pourquoi je suis pas connecté? Pourquoi je suis pas connecté? Hop. Jean ne se cache même plus d'être LFI de toute façon. Probablement. Si tu veux. Macron avance encore contraint et forcé sur l'IVG. Alors, hop. Mais c'est de la merde cet article. Ah mais non, mais c'est parce que c'est chez Paul. Pourquoi il continue à publier les chez Paul parmi les autres articles, Libé? Emmanuel Macron, fervent défenseur de l'IVG, alors que le président a annoncé dimanche 29 octobre un projet de loi d'ici la fin de l'année pour inscrire la liberté des femmes de recourir à l'avortement dans la Constitution, comme il s'y était engagé le 8 mars dernier. On ne l'a pas connu toujours aussi allant sur ce sujet. Lors de son précédent quinquennat, le chef de l'État s'était frontalement opposé à l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines pour avorter, comme cela existe déjà dans d'autres pays européens comme l'Espagne, alors que cela avait été défendu dans sa propre majorité. En octobre 2020, une proposition de loi de la députée du... Mais c'est de la merde cet article. Voilà. Non, c'est très bien. En octobre 2020, une proposition de loi de la députée du groupe macroniste dissident EDS, Alban Gayot, avait en effet été votée par l'Assemblée en première lecture avant d'être bloquée par la droite majoritaire au Sénat. À l'automne 2021, le chef du groupe LREM à l'époque, c'était Christophe Castaner, décide malgré tout de remettre le texte à l'ordre du jour pour une seconde lecture au Palais Bourbon. La demande est forte de la part des associations féministes et des députés macronistes qui sont massivement favorables. Une fois encore, le texte est d'ailleurs largement approuvé. Pourtant, les circonstances font qu'il ne risque pas d'aboutir. Alors, avec la présidentielle qui se profile, l'agenda parlementaire est archi-contraint. Difficile de faire de la place à cette proposition de loi que le très conservateur patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, veut à tout prix enterrer. Pour que le texte soit adopté à l'issue d'une commission mixte paritaire, il n'existe donc qu'une seule solution, que l'exécutif décide de lancer une procédure accélérée. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se dit favorable à la mesure. Mais il n'en est d'abord rien, car Emmanuel Macron, lui, y est fermement opposé. Il a dit au magazine Elle en juin 2021, se justifiant au motif que l'avortement serait un traumatisme pour les femmes. Putain, s'il pouvait. Ouais, bon. Avant de persister et de signer auprès du Figaro dans un avion en direct du Vatican en novembre de la même année. Je n'ai pas changé, les délais supplémentaires ne sont pas neutres sur le traumatisme d'une femme, s'émeut le chef de l'État. Sous pression de son propre camp, et alors que l'élection présidentielle est prévue 4 mois plus tard, le président se résout pourtant à inscrire le texte à l'ordre du jour du Sénat en janvier 2022. Il sera définitivement adopté le 23 février. Ce que nous rappelle cet article de Libération, c'est qu'Emmanuel Macron a eu le bras tordu par sa propre majorité. C'est peut-être un des rares moments où la gauche a réussi à déborder la droite sur un texte et à forcer le président de la République et le Sénat à se prononcer sur un texte. Si le sujet est un peu différent cette fois-ci, Macron esquive de même. Pardon, excusez-moi. Si le sujet est un peu différent cette fois-ci, Macron esquive tout de même encore l'obstacle érigé par la France insoumise, qui avait fait voter la constitutionnalisation de l'IVG l'année dernière dans sa niche parlementaire, avec l'appui du camp présidentiel. Il y avait eu un compromis, dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui s'apprêterait à renouveler l'exercice en reprenant cette fois à son compte la version vidée par les sénateurs en février. La version validée par les sénateurs en février. Ce qui, en cas d'adoption, aurait ouvert la voie à un référendum sur le sujet. Le projet de loi constitutionnelle annoncé dimanche 29 octobre vise ainsi à éviter un débat national du type pour ou contre l'avortement, en obtenant l'adhésion des 3/5 du Parlement lors du congrès à Versailles. De quoi supposer que Macron agit encore une fois de plus par nécessité, que par conviction profonde sur cette question. Extrêmement intéressant cet article, qui résume assez bien le coup de billard à trois bandes qu'a réussi à faire la France insoumise pour tordre le bras de la droite sénatoriale et forcer Emmanuel Macron à avancer là-dessus. Emmanuel Macron est contraint et forcé d'avancer sur le sujet de l'IVG parce qu'il est constant, parce qu'il est conscient qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Emmanuel Macron veut éviter au maximum un référendum sur l'IVG. Donc, il passe par le Congrès, où il sait par avance qu'il y a de fortes chances qu'il y ait les 3/5. Est-ce que pour autant, encore une fois, est-ce que pour autant il y aura que ça dans la Constitution, dans la réforme ou pas? Moi, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron va proposer un en même temps. On va avoir une réforme de la Constitution avec l'IVG et en même temps la fin de la limitation du cumul des mandats successifs du président de la République. On verra. En quoi mettre l'IVG dans la Constitution, ça empêcherait la droite de la réécrire à leur tour? Bah, par définition, toute modification de la Constitution peut intervenir, mais pour ça, il faudra que la droite ait la majorité des 3/5, ou alors le référendum. S'il y a un en même temps, c'est pas pour torpiller l'IVG. Bah non, parce que tu peux pas présenter une réforme de la Constitution en souhaitant qu'elle ne soit pas adoptée. Au contraire. Est-ce que c'est toute la réforme qui est votée ou alors c'est article par article avec des amendements? Non, c'est toute la réforme qui est votée parce qu'avant d'avoir une réforme votée en congrès, elle passe d'abord par le travail parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il veut se faire réélire. Et bah, s'il se fait réélire, c'est uniquement parce qu'il a réussi à changer la Constitution. Emmanuel Macron parviendra-t-il à modifier la Constitution au cours de son deuxième quinquennat? Je rappelle que la Constitution n'a pas été modifiée depuis 2008. Ça fait 15 ans. Intéressant. Est-ce qu'il y a un système genre 49-3 pour le faire passer en force? Non, il n'y a pas de système genre 49-3 pour faire passer en force une loi constitutionnelle. Le Congrès sera-t-il filmé? Oui. Oui. J'ai un dernier article que je voulais vous proposer de lire sur la loi immigration, parce que du coup, on n'en parle plus du projet de loi immigration. Enfin, on n'en parle plus. Si, on en a parlé sur Backseat jeudi dernier quand même. Ouais, excellente émission, faites des dons. Merci pour vos dons d'ailleurs. Immigration, le RN n'exclut pas de voter en faveur de la petite loi du gouvernement. Si elle juge que le projet de loi ne réglera pas le problème de l'immigration clandestine, Marine Le Pen pourrait voter le texte si son article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier est supprimé. Ah! Intéressant. Marine Le Pen vient apporter de l'eau au moulin des Républicains. À une semaine de l'arrivée du projet de loi sur l'immigration au Sénat le 16 novembre, le 6 novembre, le Rassemblement national pourrait bien aider le gouvernement à obtenir une courte majorité à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Marine Le Pen invitée dimanche sur le plateau de France 3. Je cite Marine Le Pen. Une petite loi avec des petites mesures qui améliorent un tout petit peu la situation, on peut la voter, a expliqué la patronne des députés RN, tout en jugeant qu'il ne réglera pas le problème de l'immigration clandestine. Il y a quelques mesures qui améliorent un peu les procédures, a-t-elle estimé. Je précise que le projet de loi immigration comprend toute une batterie de mesures qui visent à accélérer les procédures de demande de demande de papier pour les personnes sans papier. Et à accélérer également l'application des obligations de quitter le territoire français lorsque celles-ci sont prononcées. Reste que les troupes de Marine Le Pen ne voteront en faveur du texte si et seulement si son article 3 est supprimé. L'article 3, c'est le fameux article qui achoppe entre les députés de la majorité. Entre les députés de la majorité, oui, assez clairement. Depuis plusieurs semaines, les tensions se cristallisent autour de cette disposition contestée par la droite et les nationalistes, mais aussi par une partie de l'aile droite de la majorité, comme l'a très bien expliqué le streamer Jean Massier. Avec ou sans article 3, Marine Le Pen reste néanmoins circonspecte quant aux effets du projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ça ne va pas bouleverser notre incapacité totale à gérer l'immigration, a-t-elle insisté. Notre gouvernement est dans l'incapacité totale non seulement de gérer l'immigration clandestine, mais la vérité c'est qu'il n'a jamais eu autant d'immigration légale que sous Emmanuel Macron, a-t-elle poursuivi. La double finaliste de la présidentielle a par ailleurs estimé que le gouvernement contraint de recourir de nombreuses fois à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote des textes à l'Assemblée. Je cite, devrait constater que dans la situation dans laquelle il est, il devrait revenir aux urnes. Quand on se retrouve dans une situation telle que celle-là, on procède à la dissolution de l'Assemblée, a-t-elle jugé, tout en se disant convaincu qu'Emmanuel Macron n'y aura pas recours parce qu'il sait qu'il en sortirait affaibli. Évidemment, on retrouve là la marque du fait que Marine Le Pen est convaincue qu'une dissolution serait à l'intérêt du Rassemblement national. Question, est-ce que vous pensez que s'il y a une dissolution, le Rassemblement national peut devenir majoritaire à l'Assemblée? J'ai bien dit majoritaire. Aujourd'hui, ils ont quelque chose comme 89-90 députés. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent passer à 289? Est-ce qu'ils peuvent passer de 89 à 289? Honnêtement, je ne pense pas. Il y a très très peu de chance. Je pense que le RN peut se retrouver. Non, mais même pas en plus. Faudrait qu'il réussisse à balayer toutes les autres candidatures dans un nombre incalculable de circonscriptions, y compris des circonscriptions qui votent pas RN ou très peu. Non, ça m'étonnerait. À mon avis, ils peuvent faire 100, 150 peut-être. Que dit l'article 3 de la réforme? L'article 3 de la réforme de l'immigration prévoit la régularisation des travailleurs sans papier des travailleurs sans papier qui bossent dans des domaines en tension, là où on manque de bras. Et c'est un article 3 qui est défendu par une partie de la gauche, par une partie de la gauche de la majorité, autour de Sacha Houlier, le président de la commission des lois, et qui est fustigé par les Républicains et le Rassemblement national. Pour quelle raison la Constitution avait été modifiée en 2008? La Constitution avait été modifiée en 2008 parce qu'il y avait le traité de Lisbonne qui avait été adopté et parce qu'il y avait quelques modifications de la Constitution sur le calendrier législatif, sur la création du défenseur des droits, sur... non, la HATVP, c'est venu plus tard, c'est venu 6 ans plus tard. Bon, il y avait eu quelques modifications en 2008, la création de la question prioritaire de constitutionnalité aussi, pour juger la constitutionnalité des lois a posteriori. Il y avait eu plein de mesures. Il y avait eu plein de mesures diverses et variées. La limitation de l'usage du 49.3, c'est vrai, ça date de 2008, t'as raison. Tu as raison. Ils sont bien meilleurs en opposition, ils veulent être premier parti d'opposition, mais ça m'étonnerait qu'ils risquent de devoir prendre des décisions avant les élections 2027. Après, le Rassemblement national a aussi intérêt à voter la loi immigration du gouvernement, parce que ça jouerait le jeu de la dédiabolisation du Rassemblement national. Donc ça continuerait à aller dans le sens de la stratégie de la cravate prônée par Marine Le Pen et appliquée par Marine Le Pen pour dire, bah regardez, nous ne sommes pas des irresponsables d'extrême droite, nous sommes un parti responsable où on est capable de voter des lois et de faire des amendements. Enfin, de faire des amendements, de faire des compromis. Ou de la droitisation du centre. Ou de la droitisation du centre. Certes, mais dans tous les cas, Marine Le Pen, elle a intérêt de continuer à montrer un visage responsable, respectable, faisant partie d'un système politique tout à fait naturel. En gros, Marine Le Pen fait exactement la stratégie inverse de la France insoumise. La France insoumise qui joue la stratégie de la conflictualisation, y compris dans une stratégie parlementaire, là où Marine Le Pen, elle, de son côté, elle essaye de jouer ouais, la carte de la respectabilité. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la cravate. Les députés RN portent des costumes et des cravates, ils sont polis, respectables, c'est un peu la stratégie Jordan Bardella, quoi. Sébastien Chenu, etc. Est-ce que l'avènement d'une droite unie. Ah, on est encore loin de l'union des droites. On est encore loin de l'union des droites. Mais ça y participe, ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pas un peu con ce que fait la France insoumise d'ailleurs? Bah. Si tu demandes à Jean-Luc Mélenchon, il te répond 22%. C'est le score qu'il a obtenu au premier tour de l'élection présidentielle. Donc selon Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs il l'avait très bien expliqué sur le plateau de l'excellente émission Backseat, à la fête de l'UMA, il avait expliqué justement que la stratégie de la conflictualisation est la bonne stratégie, puisque c'est cette stratégie-là qui lui permet d'arriver à 22%. Et que s'il jouait le jeu de l'opposition respectable, etc., il n'y arriverait pas. Je lis vos messages, hein, pardon, excusez-moi, je lis le chat. Est-ce qu'on peut vraiment avoir deux partis adopter la même stratégie de respectabilité en s'attendant à ce que ces deux partis gagnent des voix? J'en sais rien, ça dépend beaucoup de l'électorat, ça dépend des réserves de vote, ça dépend de où tu vas chercher tes réserves de vote. Là, Marine Le Pen, elle est en train de siphonner l'électorat traditionnel des Républicains, donc la droite modérée. Elle essaye d'aller chercher des voix à la droite modérée. Jean-Luc Mélenchon, lui, il préfère une stratégie qui consiste à aller chercher des voix chez les abstentionnistes, en appliquant la stratégie de une stratégie plus radicale, une stratégie plus conflictuelle. Il estime que ça fonctionne. Qui sont d'ailleurs plus très modérés. Bah la droite, oui, non, oui, c'est ça, oui, je suis d'accord avec toi. La droite aujourd'hui se recentre sur des questions identitaires et autour des enjeux d'immigration. Étant entendu que Emmanuel Macron a réussi à aspirer à lui tout l'électorat libéral pro-européen progressiste. En gros, si t'es un électeur de droite qui tient à cœur la construction européenne, les libertés publiques, la responsabilité individuelle et la valeur travail, que tu es pour le mariage pour les personnes homosexuelles, que tu es pour le droit à l'IVG, bref, que tu es un libéral classique, il y a plus de chances que tu votes Emmanuel Macron qu'Éric Ciotti. En revanche, si tu es d'une droite un peu plus à cheval sur les questions d'immigration, sur les questions de conservatisme sociétal et sur les questions d'ordre, alors tu as plus de chances de te retrouver soit chez Éric Ciotti, soit chez Marine Le Pen. Plutôt même chez Marine Le Pen. MLP veut chercher la droite ciottique. Exactement. Exactement. Elle va chercher cet électorat-là. Je ne suis pas d'accord, Bardella va chercher l'électorat LR avec un discours éco-libéral quand Le Pen cherche l'électorat de gauche avec la sécurité et un discours éco plus de gauche en parlant de super-profits, etc. Mais Le Pen, elle ne peut pas trouver un électorat de gauche avec des enjeux sur la sécurité, parce que c'est pas un thème de gauche, la question de la sécurité. Enfin, ça dépend comment tu le prends. C'est la sécurité de l'emploi, ouais, probablement. Il reste quoi, les Républicains, c'est quoi leur stratégie? Eh ben, c'est une très bonne question que je me tue à poser à chaque responsable des Républicains que j'ai l'opportunité d'interviewer. Qu'est-ce qui reste à droite? Coincé en étau entre l'enclume et le marteau, entre Renaissance d'un côté et Marine Le Pen désiabolisée de l'autre. C'est dommage que la sécurité soit pas un souci de la gauche. En fait, la gauche te répondrait, si elle était là dans la pièce, elle te répondrait que la question de la sécurité ne se pose pas en termes sécuritaires et en termes de moyens donnés à la police, mais se gère en matière de sécurité de l'emploi, en matière de sécurité sociale, en fait, tout simplement. S'attaquer aux racines de la pauvreté pour réduire l'insécurité. Et de prévention, exactement, prévention. Il reste la droite catholique des territoires, mais pas grand-chose au niveau national. Tu parles des républicains? Bah, il doit rester quand même un substrat d'électeurs, de cadres dirigeants qui ne veulent pas voter à l'extrême droite parce qu'ils considèrent qu'ils sont pas responsables. Donc ils continuent à voter LR. C'est ce qu'on voit d'ailleurs notamment dans les élections municipales. Tu vois, les républicains s'en sortent assez bien. T'as raison de dire qu'ils s'en sortent bien chez la droite catholique des territoires, ça c'est vrai. Mais ils continuent à faire des... Oh, je dis ça, mais en fait non, hein. Sur les législatives, c'est pas tout à fait pareil. Sur les législatives, on a vu qu'ils avaient clairement rallié Emmanuel Macron, cette droite des villes. Stigmatisation des pauvres comme vecteur d'insécurité, c'est tellement faux et bas. Ben non, mais c'est pas faux. La délinquance, c'est surtout chez les populations les plus précaires, ça on le sait. Même s'il y a la délinquance en col blanc qui est peu poursuivie au grand dam de la gauche. Mais non, enfin, pour le coup, c'est un discours classique de Victor Hugo, hein, ce que je suis en train de dire. Construisez des écoles, vous détruirez des prisons. C'est plutôt au niveau des maires, la droite des territoires. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ça se retrouve d'ailleurs logiquement au Sénat. Voire de Engels. Oui, voire de Engels. Oui, mais tout comme le PCF a gardé des élus pendant longtemps après que le parti est mort à l'échelle nationale, je pense que LR est encore implanté localement, mais avec pas ou peu au niveau national. Ça dépend de d'où tu regardes, mais je vois ce que tu veux dire. Non, non, mais c'est vrai, à l'Assemblée nationale, en l'occurrence, non. À l'Assemblée nationale, les Républicains, c'est un petit groupe. On est loin de l'époque où il y avait 300 députés, les Républicains, ouais. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois. On a une tripolarisation du paysage politique et surtout on a une désynchronisation des élections locales et des élections nationales. Aux élections nationales, on a un bipartisme qui est encore assez fort avec les partis traditionnels du PS et des Républicains qui fait des bons scores aux élections municipales et départementales et régionales, alors qu'au niveau national, ces deux partis, qui sont forts territorialement, s'effondrent pour laisser place à trois partis qui ont de fait peu d'assises locales, la France Insoumise, Renaissance et le Rassemblement National. Face à la dédiabolisation de l'extrême droite, est-ce que tu vas continuer à garder ta volonté de ne pas inviter l'extrême droite sur Backseat? Oui. Oui, mais ça change rien, j'en ai rien à foutre que si c'est dédiabolisation ou pas. Un gouvernement avec ceux qui ont voté la motion de censure de Courson. Bah tu. Enfin, non, c'est irréaliste. On n'imagine pas un gouvernement avec LFI et le RN dans le même gouvernement. C'est très très dur à imaginer. Trop de clientélisme au niveau local pour que ça bouge. Non, c'est pas tant du clientélisme que de la confiance. Les électeurs qui votent aux élections locales font confiance, en général, aux sortants ou à ceux qui sont bien implantés localement. Il se trouve qu'il y a une bonne implantation locale du PS et des Républicains. Salut Usul. Ouais, moustache, t'as vu. C'est Movember avec un peu d'avance. Du coup, je t'imite. Comme t'es mon rôle modèle, il faut bien que. Donc voilà, donc c'est exactement. On en retombe du coup sur ce qu'on a déjà dit, sur la décorrélation entre le niveau national avec sa tripartition politique et le niveau local, où il y a encore aujourd'hui un fort ancrage local des élus modérés de la gauche, du centre et de la droite. Encore que de la droite, on peut en discuter parce que les maires, les républicains dans les zones rurales, je ne sais pas si c'est les gens les plus modérés du monde. N'y a pas aussi une incapacité à se penser localement pour les partis comme Renaissance, ce qui jouerait sur une absence totale. Ah. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je n'arrive pas à imaginer ce que serait la spécificité d'une mairie Renaissance. Je vois pas le. Autant le socialisme municipal, je l'identifie bien. Bon, après, c'est facile pour moi parce que j'ai travaillé dedans, donc c'est facile. La droite locale, je l'identifie bien. Je comprends bien comment ça fonctionne, etc. Je vois bien. Les élus modérés, du genre les radicaux valoisiens, les radicaux de gauche, etc., l'espèce de centre éternel, l'UDF et tout, ça aussi, je vois à peu près encore. Mais c'est vrai que Renaissance, j'ai du mal à voir quelle est l'offre de Renaissance en matière de politique locale. Je sais pas. C'est Horizon. Ouais, c'est ça, mais Horizon, c'est. Ah, Horizon, je vous rappelle que c'est créé essentiellement à partir des maires, les républicains, hein, qui rejoignent du coup la majorité. Donc je sais pas comment on va s'en sortir de tout ça. Même LFI et le RN, c'est pas pareil niveau local, c'est pas très tentant. Bah, le Rassemblement National Municipal, on le connaît, hein, ça a déjà existé à Toulon, à Orange. À Béziers, etc. Donc on voit un peu le côté très rouge qui tache, à Marseille aussi, dans certains arrondissements. La France Insoumise, au niveau local, pareil, France Insoumise, ils se sont pris une tôle aux élections municipales, sauf quand ils ont fait alliance à certains endroits, ça dépend. Et du coup, c'est un petit peu difficile à imaginer une mairie insoumise, qu'est-ce que ça aurait de particulier et de différent d'une mairie socialiste? Ou alors, au niveau ultra-local, je vois bien les. Mais c'est plutôt des enjeux de personnes, en fait, et de style. À Paris, par exemple, oui. Mais parce qu'à Paris, en l'occurrence, la ligne est clairement tracée. Après, il y a Grenoble, hein. Il y a Grenoble où il y a la France Insoumise qui participe à la majorité. Ouais, non, je sais pas. Donc voilà, on a fini cette revue d'actu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah merde, non. Merde, bon, j'irai le chercher tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, non, n'hésitez pas. Attendez, je vais quand même vous remonter la prog de la semaine pour ceux qui seraient passés à côté. Hop. Alors, la programmation sur ma chaîne cette semaine. Là, on vient de faire une revue d'actu politique. Putain, ça a duré peu de temps, hein, ça a été rapide. Demain, on a les questions au gouvernement à partir de 14h sur ma chaîne. Mercredi, on se fait une petite FAQ politique à 15h. Jeudi, il n'y a pas Baxit. Je vous rappelle qu'il n'y a pas Baxit jeudi. Il y a un live privé qui sera réservé aux donateurs de Baxit. Celles et ceux qui donnent plus de 10 € par mois pour le financement de Baxit ont l'accès, une fois par mois, à un live privé avec le reste de l'équipe Baxit, pas que avec moi. Et donc, on va vous présenter les équipes de Baxit. Enfin, je dis vous, pour les personnes qui donnent. On va vous présenter l'équipe de Baxit. On va répondre à vos questions. On a des trucs à vous annoncer aussi, en avant-première, etc. Et vendredi, je ne sais pas si je fais un stream ou pas. Ça dépend. Est-ce que je dois venir? C'est pas obligatoire, Usul. C'est pas obligatoire. C'est pas. Voilà. Ce serait cool qu'il y ait des chroniqueurs quand même qui soient là, pour parler du boulot de chroniqueur, justement. Mais c'est pas obligatoire. Est-ce qu'il y aura une rediff? Pour les donateurs, oui, il y aura une rediff, mais pas pour les autres. Je peux pas, j'ai Mars Express. Bah oui, non, on vous avait déjà dit qu'il n'y avait pas d'émission Backseat ce jeudi, donc a priori, les chroniqueurs, vous n'êtes pas censés être libres. Désolé, sinon je serais revenu. Bah, t'auras l'occasion, on le fera une fois par mois, cet événement-là. Une fois par mois. Est-ce que ce sera sur Twitch ou sur un autre site? Ce sera pas sur Twitch. Ce sera un live privé. Tous les donateurs, même en dessous de 10 euros. Non, à partir de 10 euros. Tchoum. Il devient quoi, Usul? Bah, il va bien, il t'embrasse. J'en sais rien, c'est quoi cette question? C'est que tu peux le retrouver sur Twitch, hein, il a sa chaîne. Ce sera sur Kick, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Est-ce que tu peux demander à l'Assemblée de décaler les QAG car j'ai cours le mardi après-midi et je peux pas suivre? Ah, malheureusement, ça risque d'être compliqué. Navré. Navré, navré, navré. Très fan de la pornstache. T'es con. Donc ouais, non, on se retrouve demain aux questions au gouvernement. Et donc du coup, si vous voulez assister au live privé réservé aux donateurs de 10 euros minimum, bah vous faites un don de 10 euros minimum mensuel pour faire monter la jauge, arriver jusqu'à 20 000 euros. Donc n'hésitez pas à soutenir Backseat. Vous aussi faites partie du club Backseat. Est-ce que tu envisages le multistream à minima pour Backseat pour augmenter la visibilité de l'émission? Ça, je sais pas. Je sais pas encore. Il faut qu'on en discute avec PMF. Il faut qu'on voit. Si la NUPES tient jusque-là, comment elle va ressortir des européennes? C'est pas là où brille la fille. Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Alors ça, pour le coup, j'ai pas de boule de cristal et je suis incapable de vous donner à l'avance. Les résultats des européennes. Hein. Est-ce que la France insoumise va réussir à faire un meilleur score que les autres partis aux européennes? Ça, c'est pas certain. Est-ce que c'est autorisé par Twitch le multistream? Ouais, maintenant c'est autorisé. Désormais. Ils avaient déjà ouvert un petit peu la porte il y a un an, et là ils viennent d'annoncer que maintenant c'était autorisé. À certaines conditions. Mais bon. Donc non, je sais pas si je vais co-diffuser mes émissions sur YouTube, peut-être. C'est comme le Fight Club, faut pas en parler. Ouais, c'est ça. Ce serait une bonne idée pour YouTube, mais pas au-delà. Ouais, je pense. Bon, TikTok éventuellement. Après, Backseat sur TikTok, je suis pas sûr que ce soit vraiment le truc à regarder. Je sais pas. Je sais pas, on est souvent surpris. Je sais pas. Le problème, c'est pas le multistream, c'est plus le multi-chat pour le streamer à suivre. Ah, moi, il y aura que le chat Twitch, hein. Ah non, moi, il y aura que le chat Twitch. Alors, je vais pas commencer à lire plusieurs chats en même temps. Hein. Il n'y a pas un compte TikTok pour Backseat? Si, il y a un compte TikTok. Vous pouvez vous abonner au compte TikTok Backseat qui vient d'être créé. On vient à peine de le créer, donc n'hésitez pas, il y aura des extraits de Backseat sur ce TikTok. Les annonceurs risquent de toute façon d'imposer au marché une multidiffusion. Pourquoi la marque irait chez un streamer monoplateforme? Oui, t'as raison d'ailleurs. T'as raison. J'avais pas pensé, mais t'as raison. Hardisk, il scrape tous les chats, mais je sais pas comment. Moi non plus, je sais pas. Faudrait que je lui demande. Ouais. Je vous propose un raid chez Maudit. Je vous propose d'aller en raid chez Maudie, la streameuse Maudie qui joue à des jeux d'horreur avec Ultia à l'occasion d'Halloween. Hop. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Merci d'avoir été là, c'était cool. Bonne suite de stream en compagnie de Maudie sur sa chaîne. Et on se retrouve demain à partir de 14h pour les questions d'actualité au gouvernement. Merci à vous, c'était cool. À demain. Ciao tout le monde, salut.
C'est beaucoup Jean-Marc.
Dans cette dimension depuis maintenant.
Bienvenue. Merci pour Bonsoir. Les 1 an de soutien. Là.